Le journal présenté par Laura Dulieu.
Bonjour à toutes et à tous. Jour de vote en Ukraine avec des élections législatives sans grand suspense. Le parti du nouveau président Volodymyr Zelensky est donné gagnant. Nous retrouvons Claude Bruyot sur place. Les États-Unis vont redéployer des troupes en Arabie Saoudite. Une première dans un contexte de forte tension dans le Golfe. Les explications de Nathanaël Charbonnier dans ce journal. Benjamin Netanyahou bat le record de longévité d'un premier ministre israélien. 13 années de règne avec d'importants succès diplomatiques. Un règne qui pourrait bien décliner, nous dira Marine Vlaovic. Enfin, nous irons à Toulouse où la cité de l'espace fête les 50 ans de l'alunissage de la mission Apollo 11 et à Nice où les défenseurs de la cause animale s'attaquent au delphinarium. Les Ukrainiens sont appelés à élire leurs députés aujourd'hui, 3 mois après avoir choisi comme président l'humoriste Volodymyr Zelensky. Donné gagnant, le parti du jeune chef d'État pourrait ainsi fournir davantage d'assises à son nouveau pouvoir. Une nécessité compte tenu des enjeux qui attendent l'Ukraine dans les mois à venir. À Kiev, Claude Bruyot.
La victoire qui s'annonce pour Volodymyr Zelensky va lui permettre d'asseoir davantage sa crédibilité à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine. À l'intérieur, pour tenter d'améliorer la situation économique et sociale de l'un des pays les plus pauvres du continent européen, où par exemple le minimum de pension retraite est à 40 euros par mois. Le jeune président Zelensky a besoin de ce succès qui lui donne une cohérence pour gouverner et convaincre aussi les institutions financières comme le Fonds monétaire international ou la Banque européenne de maintenir leurs aides. À l'extérieur, cette victoire annoncée ce soir aux législatives pour le parti présidentiel va permettre à Volodymyr Zelensky de consolider davantage son pouvoir, essentiellement dans la perspective de sa relation avec Vladimir Poutine et plus particulièrement sur la question du conflit dans le Donbass. La représentation pro-russe en Ukraine, bien que réelle dans l'est du pays, étant appelée à rester largement minoritaire.
Claude Bruyot, 20 000 manifestants dans les rues de Moscou hier pour réclamer des élections locales libres et équitables. Un appel à manifester de l'opposition et qui fait suite à l'enregistrement par les autorités russes d'une 60aine de candidats à l'élection du Parlement de la ville de Moscou. Un scrutin prévu en septembre et parmi les figures de l'opposition présentes dans le cortège, Alexei Navalny qui parle du plus grand meeting d'opposition de ces dernières années. C'est une première depuis qu'elles ont quitté l'Arabie Saoudite en 2003. Les troupes américaines vont faire leur retour dans ce royaume pétrolier du Golfe dans un contexte de fortes tensions avec l'Iran et de nouveaux incidents dans la région. Il s'agira du premier déploiement du genre depuis le retrait des troupes américaines présentes sur le territoire saoudien pendant 12 ans et de guerre contre l'Irak. Nathanaël Charbonnier.
Le retour des troupes US en Arabie Saoudite est avant tout symbolique. On parle de 500 hommes. De toute façon, en mai déjà, les Américains avaient annoncé vouloir envoyer 1500 militaires de plus dans la région. C'est Riyad qui en a fait l'annonce dans un moment relativement tendu et compliqué. Tendu avec l'Iran et le dernier incident en date, l'arrestation d'un pétrolier britannique dans le détroit d'Ormuz. Compliqué parce que les relations avec les Américains ne sont plus aussi simples qu'elles l'étaient auparavant. Il faut dire que depuis l'affaire de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, certains aux États-Unis se méfient. Se retrouvent dans le viseur et le prince héritier, Mohamed Ben Salman, accusé d'avoir commandité le meurtre, mais aussi Donald Trump, à qui l'on reproche de ne pas avoir suffisamment condamné l'horreur de cet assassinat. Quoi qu'il en soit, l'heure est à la démonstration de force de tous les côtés. Le retour sur le sol saoudien de militaires américains y participe, même si pour le moment personne ne souhaite entrer en guerre avec l'Iran. Les spécialistes évoquent simplement un effet dissuasif supplémentaire.
Nathanaël Charbonnier. Les États-Unis qui font face à une canicule ce week-end. 150 millions d'habitants sont touchés et on compte déjà 3 morts. Avec des températures infernales, 38 degrés à New York et Washington, 45 degrés prévus par endroit. Cette vague de chaleur devrait durer au moins jusqu'à ce soir. Benjamin Netanyahou a battu le record de longévité d'un premier ministre israélien au pouvoir. Il détrône ainsi David Ben-Gurion, l'un des pères fondateurs de l'État hébreu. Le chef du Likoud a été à la tête du gouvernement entre 1996 et 1999 et tient les rênes d'Israël depuis 2009. Au total, 13 années de règne marquées par d'incontestables succès diplomatiques, notamment grâce au soutien indéfectible de l'administration Trump. Mais son règne est contesté et terni par des affaires à de nouvelles élections bientôt en Israël. Les explications de Marine Vlaovic, correspondante de RFI dans la région.
La longévité de Benjamin Netanyahou est souvent considérée comme une énigme. Si ses admirateurs louent son bilan économique et ses percées diplomatiques, le roi Bibi n'est pas exempt de critiques. Taxé de populiste par ses détracteurs, il est accusé de diviser la population israélienne, d'avoir marginalisé la question du conflit israélo-palestinien ou encore de stigmatiser la population arabe de l'État hébreu. À sa droite, on lui reproche sa politique laxiste à l'égard des factions de la bande de Gaza. Mais Benjamin Netanyahou est surtout cerné par les affaires. Soupçonné de corruption, fraude et abus de confiance, il doit être entendu par la justice à l'automne. Et c'est sous la menace d'une inculpation qu'il prépare sa nouvelle campagne électorale. Devant l'impossibilité de former un gouvernement après les dernières élections législatives, il a décidé de provoquer un nouveau scrutin qui se tiendra donc en septembre prochain. À 69 ans, Benjamin Netanyahou, l'inamovible, prend ainsi le risque de perdre son trône.
Marine Vlaovic. Les célébrations du cinquantenaire des premiers pas de l'homme sur la Lune se poursuivent. La Cité de l'espace à Toulouse fête aujourd'hui donc les 50 ans de l'alunissage du LEM de la mission Apollo 11. Pour l'occasion, elle accueille gratuitement plus de 17 000 personnes. Au menu, un film documentaire Apollo 11 qui sort au cinéma en septembre et des spationautes et journalistes pour évoquer à la fois cette mission mythique et l'avenir de l'exploration lunaire. À Toulouse, Stéphane Iglesis.
Cet Apollo Day, placé sous le double signe du rétroviseur 50 ans après l'alunissage du LEM et de l'accélération des projets lunaires. Ron Paulus est ancien ingénieur de la NASA. Il était en charge du contrôle de tous les modules des missions Apollo.
Nous continuons à défier les Russes. C'était une course. Et puis il y a eu la baie des cochons, un embarras majeur pour le président Kennedy lui-même. Deux jours après, il a écrit une lettre au vice-président Johnson, créant le Conseil national de l'espace. Il a évoqué plusieurs questions d'affilée et une d'entre elles était « Sur quel terrain, à quel endroit pouvons-nous battre les Russes ? Nous choisissons d'aller sur la Lune », a déclaré le président.
Retourner sur la Lune, mais pourquoi faire ? Pour apprendre à être autonome et aller sur Mars, selon Sylvestre Maurice, astrophysicien.
Sur une station spatiale ou bien sur la Lune, il faut apprendre à survivre avec, recycler son oxygène, son sel fer, son eau. Il va falloir apprendre à cultiver, il va falloir apprendre à faire un abri, peut-être avec du régolithe lunaire, c'est-à-dire ce sol lunaire dont on fera des briques. Donc c'est véritablement l'utilisation des ressources pour vivre sur place.
Vous pourrez aussi découvrir sur place des projets de vie sur la Lune avec même cet architecte qui est venu avec son projet de base lunaire, au cas où il trouverait un sponsor.
Stéphane Iglesis. SOS Méditerranée reprend du service et annonce une nouvelle campagne de sauvetage en mer avec Médecins Sans Frontières. 7 mois après l'immobilisation de l'Aquarius, c'est désormais un navire norvégien, l'Ocean Viking, qui se dirige vers la Méditerranée. Il n'entrera pas dans les eaux territoriales libyennes. Depuis le début de l'année, au moins 426 personnes sont mortes en tentant de traverser la mer. Ils étaient plusieurs centaines hier à scander « Où est Steve ?» sur le quai Wilson à Nantes, un rassemblement un mois après la disparition de Steve Maya Caniço. C'était le soir de la fête de la musique lors d'une intervention de police très controversée. Et cette fois à Beaumont-sur-Oise, ce sont plusieurs milliers de personnes, 1500 selon les gendarmes et 5000 selon les organisateurs, qui ont marché en mémoire d'Adama Traoré, mort il y a tout juste 3 ans après une interpellation. Un rassemblement dont le mot d'ordre était la convergence des luttes contre les violences policières. Des gilets jaunes étaient présents dans le cortège. Après les cirques et les zoos, c'est au tour des delphinariums de passer dans le viseur des défenseurs de la cause animale. Depuis la semaine dernière, l'association Cétacé organise une campagne d'affichage à Nice pour sensibiliser le public au sort des orques, dauphins et autres cétacés dans les parcs aquatiques. Les explications de Théo Conscience.
Un orque ou des dauphins entassés dans une baignoire avec l'inscription « Pour nous, un divertissement éphémère, pour eux, une vie d'esclave et de souffrance ». C'est l'image qui sera affichée sur des centaines de bus niçois cet été à l'initiative de l'association Cétacé. Objectif, faire baisser la fréquentation du parc aquatique Marineland situé à une vingtaine de kilomètres de là.
Les cétacés ne peuvent absolument pas vivre en captivité.
Christine Grandjean est la présidente de l'association.
Dans la nature, les cétacés passent 80% de leur temps à plonger et à chasser sous l'eau, à sociabiliser. Et dans un bassin, ils passent plutôt 80% de leur vie en surface, puisqu'il n'y a pas de profondeur et qu'ils sont inactifs. Ils ne peuvent pas chasser, il n'y a pas de poissons. Et ça, c'est des besoins physiologiques qu'ils ne peuvent pas exercer en bassin. Donc en fait, le but, c'est d'interpeller les gens avant qu'ils se rendent dans les delphinariums.
Du côté du parc Marineland, on se défend de toute maltraitance. Le delphinarium dit travailler de concert avec des scientifiques pour mieux protéger ces espèces. Pour son directeur général Pascal Picot, l'association Cétacé se trompe de combat.
Le vrai combat, il est en mer, c'est comment protéger les dauphins dans le milieu naturel, puisqu'à l'heure actuelle, il y a de vrais drames sur les côtes françaises. Et aujourd'hui, le rôle des zoos en général et des parcs marins en particulier, c'est sensibiliser les enfants à la protection de la biodiversité, justement pour protéger les espèces en milieu naturel.
La capture accidentelle ou mortelle d'orques et de dauphins par des bateaux de pêche fait réagir des ONG qui ont porté plainte contre plusieurs pays, dont la France, où 1200 cétacés échoués ont été retrouvés cet hiver.
Et le ministère de l'Environnement doit annoncer à la rentrée une série de mesures sur le bien-être animal dans les centres marins, les parcs zoologiques et les cirques. Pour finir le temps, ce matin, de la grisaille un peu partout, un peu plus soutenue en Occitanie et sur le Grand Est. Ailleurs, vous aurez quand même de belles éclaircies. Les températures restent agréables avant la canicule annoncée dès demain. 22 degrés autour de la Méditerranée, 17 en Bretagne, 18 à Paris et 21 à Biarritz. Cette édition a été préparée avec Emmanuel Faucillon.